42e congrès de la FPI Urgence Logement, jeudi 27 juin 2024 sur Radio Immo.
Eh bien, bonjour les amis, voilà, on est toujours en direct du 52e congrès de la Fédération des promoteurs immobiliers dans le nord de la France, à Marc-en-Barœul exactement. Voilà, un congrès marqué par une certaine forme d'incertitude, on peut dire les choses comme ça, mais beaucoup de soutien collectif. Et bien évidemment, dans l'état de crise, le collectif, ça compte énormément, beaucoup de monde ici à Marc-en-Barœul. On parle justement des partenaires qui accompagnent dans les actes notamment de décarbonation, de rénovation énergétique du bâtiment, bien évidemment des entreprises de taille nationale, voire internationale, qui accompagnent ceux qui fabriquent la ville au quotidien. Et bien, on va faire un focus avec nos amis d'EDF et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Nathalie Mougeot.
Bonjour.
Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable prescription et partenariat auprès des acteurs de l'immobilier.
Tout à fait. Donc...
Alors pas que des acteurs du neuf, mais aussi des acteurs de l'ancien.
Tout à fait, je m'occupe des partenariats aussi avec les bailleurs sociaux, les syndics de copropriété, sur lesquels il y a beaucoup d'actions à mener aujourd'hui, les constructeurs de maisons individuelles.
Tous ceux qui fabriquent des appartements, des maisons, bailleurs sociaux, construction de maisons individuelles, vous avez un spectre assez large en fait.
Tout à fait, plus un petit peu aussi tout ce qui est la maîtrise d'ouvrage avec les architectes et
Alors, en quoi ça consiste votre métier ? Justement, vous accompagnez les entreprises sur le plan notamment de la rénovation et de la décarbonation.
Alors, à la base, sur la décarbonation, je dirais que c'est le point... principal, en accompagnant vers des solutions soit électriques, soit des solutions d'énergie renouvelable. Donc, en leur montrant, on utilise aussi tout le savoir-faire de notre R&D pour leur indiquer les dispositifs qui fonctionnent bien, les systèmes qui fonctionnent bien. On peut aussi démontrer avec nos filiales comme Dalkia, etc., tout ce qui peut être fait en termes de réseau de chaleur, de récupération de chaleur. Ce qui va venir de plus en plus aussi pour implanter, je dirais, le bâtiment et les usages dans un tissu local où on va pouvoir aller récupérer la chaleur chez des industriels qui cherchent eux aussi à décarboner pour alimenter des logements.
Est-ce que, justement, on parlait des réseaux de chaleur, est-ce que vous proposez plusieurs solutions énergétiques ?
Tout à fait.
Donc c'est un mix énergétique ?
Tout à fait, c'est un spectre très large. Donc, on a à la fois les solutions réseau de chaleur avec tout type de solutions puisqu'on s'adaptera en fait à l'énergie locale disponible à proximité. Donc on a par exemple de la thalassothermie à Marseille, on va avoir beaucoup de géothermie en Île-de-France, on va avoir des réseaux à base de biomasse sur l'Aquitaine. Voilà, donc en fonction de ce qu'on a de la récupération de chaleur sur les data centers qui se fait de plus en plus. Donc voilà, au fur et à mesure, en fonction de l'énergie locale présente, on va pouvoir l'utiliser. À côté de ça, on va développer tout ce qui est les systèmes, enfin développer et proposer tous les systèmes thermodynamiques, autour de la pompe à chaleur, les radiateurs électriques intelligents aussi qui reviennent assez fortement avec un couplage sur une pompe à chaleur RR, ce qui répond aussi aux besoins de confort d'été.
Alors c'est quoi une pompe ? Pour ceux qui nous écoutent, une pompe à chaleur RR ou RO, par
Alors,
exemple.
En fait, il y a plusieurs, donc il y a trois types en fait de pompes à chaleur. La RR, c'est qu'elle va chercher dans l'air les calories et qu'elle va elle va rediffuser cette chaleur par l'air. Autrement dit, c'est les convecteurs que vous voyez assez souvent dans les hôtels qui vont vous faire la climatisation.
Absolument.
Mais souvent, ils sont réversibles, donc ils font du chaud ou du froid. Donc ça vous
Beaucoup
permet.
Plus pratique.
Voilà, c'est pratique. Les RO, en fait, ils vont capter les calories ou les frigories à l'extérieur et ils vont restituer les calories ou les frigories par un système d'eau. Donc, si vous changez, par exemple, votre chaudière fuel que vous aviez un réseau de radiateur, bah vous allez garder votre réseau de radiateur et chauffer l'eau qui sera mise dedans. Comme le faisait une chaudière fuel ou gaz. Donc, vous n'avez pas besoin de changer vos émetteurs et vous captez juste les calories dans l'air.
Par exemple, c'est le même processus pour chauffer l'eau, par exemple, les ballons d'eau chaude.
C'est ce qu'on appelle les chauffe-eau thermodynamiques.
Absolument, voilà,
thermodynamique. C'est la même
chose. Vous avez parlé de...
Alors, et donc, il y a OO aussi.
Ah, OO.
Alors, OO.
Alors, RO,
R-O.
R-R.
R-R et O-O. Et donc O-O, c'est, ça se redéveloppe de plus en plus avec la géothermie de moyenne profondeur. Et en fait, on va récupérer donc du coup de l'eau, les calories de l'eau du sol, et on va les remonter, parce qu'en moyenne profondeur, vous allez récupérer du 14 degrés.
Et la géothermie, c'est un système où on récupère de l'énergie en sous-sol. Hein.
C'est ça, on utilise les calories de la terre, en fait, qui réchauffe.
C'est génial. Et ça, c'est renouvelable.
Pardon ?
Ce sont des énergies qui sont renouvelables.
Tout à fait. En fait, l'avantage de la pompe à chaleur, donc, de ces systèmes, c'est que déjà, vous avez pour 1 kWh d'électricité utilisée, vous avez 4 kWh de restitué dans le logement. Donc, 3 kWh qui sont finalement que de l'énergie renouvelable.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, toutes ces énergies-là, on les maîtrise. Aujourd'hui, il n'y a plus photo. On est vraiment sur de l'énergie renouvelable.
Oui, oui, tout à fait.
Donc, le mouvement, il est vraiment décroissant pour les énergies fossiles. Est-ce qu'on a du gaz renouvelable ?
Alors, il y a un petit peu de gaz renouvelable, de gaz vert ou biogaz.
Ou de la méthanisation, qui est en fait un gaz avec de les énergies, avec des organes, déchets organiques, céréaliers ou autres.
Tout à fait.
On utilise la méthanisation, par exemple.
Tout à fait. Alors, le biogaz se développe. Ce qu'il y a, c'est que quand on regarde la stratégie nationale bas carbone et la manière dont c'est organisé, le biogaz ne permettra pas de répondre à tous les usages. Donc il est fléché vers les usages où il y en aura le plus besoin, c'est-à-dire l'industrie.
Ah oui.
Dans certains procédés industriels, vous ne pourrez pas faire autrement. Donc ça viendra remplacer le fossile dans l'industrie, donc le gaz actuellement utilisé, mais parce qu'on ne sait pas faire autrement. On a besoin de cette molécule de méthane. Donc ça, c'est en priorité sur l'industrie. En seconde priorité, sur le transport lourd. Donc tout ce qui est les grands transports, donc ça viendra pour les bateaux et autres, donc en remplacement du fuel. Et il en reste finalement une toute petite part pour le bâtiment. Et donc c'est la raison pour laquelle les lois aujourd'hui ne poussent pas pour le gaz dans le bâtiment. Parce qu'à terme, bah vraiment, si on veut être en 100% renouvelable et donc on n'est que du biogaz, il faudra que ce soit fléché vers les usages.
Est-ce que toutes ces énergies, là, justement, elles ne sont pas émettrices de carbone ? Pardon. Elles sont décarbonées.
Oui.
Donc le bilan est zéro carbone.
Alors, le bilan est zéro carbone. Et au niveau... alors, on se dit on va utiliser de l'électricité. Dans le mix énergétique électrique, bon, on est quand même décarboné à 98% en France. Et alors cette année, on devrait être à 100% parce que tout ce qui est barrage hydraulique et autres, on fait le plein. Toutes les centrales sont en fonctionnement. Donc là, aucun doute, on n'a pas de problème pour passer l'hiver, contrairement à ce qu'on avait pu avoir il y a 2 ans. Donc là, on n'est plus du tout dans cette problématique-là. Et on pourra vraiment avoir du 100% énergie renouvelable, énergie décarbonée.
Alors, non, mais c'est une bonne nouvelle pour les Français, parce que vous dites, on aura de quoi passer l'hiver. Non, parce que, depuis une époque, on nous avait fait croire, le gouvernement de l'époque, quand il y a eu la guerre en Ukraine, nous avait dit, on va avoir des problèmes d'approvisionnement l'hiver. Et en fait, ça a très bien fonctionné.
Ça a été tendu quand même. Alors, et ça a été sous surveillance, mais il y avait plusieurs phénomènes qui expliquaient ça. On avait un certain nombre de centrales qui étaient à l'arrêt, parce qu'il y avait eu des maintenances qui avaient été décalées suite au Covid, deux, parce qu'on a découvert sur une catégorie de centrales, on a touché 12 quand même, ce qui est important dans le parc, des fissures sous contrainte. Donc, c'était une nouvelle contrainte technique qui nous a obligés à arrêter toutes ces centrales-là en même temps. Donc, 12 centrales à l'arrêt, ça fait quand même beaucoup de production en moins. Et 3, on avait eu un été caniculaire, je vous rappelle, et les niveaux d'eau étaient au plus bas.
Donc, très, très bas.
Même la partie hydraulique, en fait, produisait entre 17 et 20% en moins. Donc, le cumul de tout ça faisait que la production était très tendue. C'est pour ça que je dis, là, voilà,
hydrologie.
Les barrages sont au plus haut, là, aucun problème.
Là, avec tout ce qui est tombé.
Voilà, et bon, le photovoltaïque s'est développé entre deux. L'éolien aussi, notamment l'éolien offshore.
Finalement, c'est les leçons de du manque, et c'est les leçons de la guerre, des conséquences de la guerre en Ukraine, des difficultés d'approvisionnement avec la Russie, parce que la Russie n'alimente plus autant.
Alors, ce n'est pas forcément les conséquences. C'est-à-dire que c'était planifié quand même. Et ça continue à être planifié, oui, le sûr. Développement. Donc, le développement des ENR est de toute façon fait partie des plans d'action mis en place par EDF. Il fait partie des plans d'action, d'ailleurs, que l'on promeut aussi au niveau des promoteurs. Je suis intervenu il y a moins d'un mois en Web TV sur le photovoltaïque pour la FPI.
C'est clair. Donc, la photovoltaïque qui prend une ampleur extrêmement importante. Dernière question, Nathalie. C'est important pour vous d'être ici, dans ce type d'événement particulier ?
Oui, c'est très important parce que dans la période actuelle d'incertitude pour tous, il est plus important que jamais d'être auprès des promoteurs et de les accompagner à la fois pour poursuivre cette décarbonation et leur apporter des clés de solutions accessibles financièrement aussi, et en même temps de les accompagner sur la transformation de leur métier, notamment vers la rénovation, et leur expliquer aussi quelles sont les possibilités d'accompagnement financier dont ils peuvent disposer, et notamment les certificats d'économie d'énergie, sur lesquels j'interviens assez régulièrement maintenant auprès des promoteurs.
Merci beaucoup, Nathalie. Nathalie Mougeot, je rappelle que vous êtes responsable prescription et partenariat auprès de tous les acteurs de l'immobilier. On est toujours ici au 52e congrès. On se retrouve dans quelques instants.
52e congrès de la FPI, Urgence Logement, jeudi 27 juin 2024 sur Radio Immo.